Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un épisode qui peut paraître un petit peu flat, là. On va parler de la pharmacocinétique aux soins intensifs. Vous allez me dire, Mathieu, pourquoi tu nous parles de pharmacocinétique? Il y a bien juste un pharmacien pour nous parler de ça. Je vous dirais oui et non, parce que dans les faits, la pharmacocinétique, bien qu'il y a plein de termes souvent incompréhensibles, c'est super important de s'en soucier. Pourquoi? Parce que des doses mal ajustées peuvent entraîner soit un surdosage, donc plein d'effets secondaires, ou même des événements plus indésirables ou plus graves, ou encore pire, un sous-dosage. Donc, on ne traitera pas comme il faut notre patient, puis notre patient va décompenser de sa condition. Donc, c'est super important d'en tenir compte. Mais l'affaire, c'est qu'aux soins intensifs, ça peut changer beaucoup entre les patients, puis même à travers le même patient au courant de son séjour, sa pharmacocinétique peut changer. Parce qu'aux soins intensifs, la pharmacocinétique va différer. Fait que ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les ajustements de médicaments que vous avez dans les monographies sont souvent pas adaptés au changement de la pharmacocinétique aux soins intensifs. Fait que c'est super important d'en tenir compte pour pouvoir faire des ajustements qui sont personnalisés pour le patient, qui vont être à la fois le mieux pour traiter sa condition tout en minimisant ses effets secondaires. Fait que c'est sûr que le meilleur allié pour que vous allez avoir pour les ajustements de pharmacocinétique et de médicaments en général, hein, c'est le pharmacien. Bon, c'est sûr, je suis biaisé, là, je suis pharmacien, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui est, c'est un professionnel de la santé qui est très bien formé pour vous aider et pour aider le patient parce qu'on travaille en équipe en soins intensifs, on le répétera jamais assez, les soins intensifs, c'est le sport d'équipe ultime. Donc, en utilisant ses connaissances et en utilisant son expertise, on va être en mesure de pouvoir offrir le meilleur de sa pharmacothérapie. Fait que bref, c'est quoi de la pharmacocinétique? La pharmacocinétique, dans le fond, c'est le devenir du médicament dans le corps du patient. Donc, ça commence par une dose hein, qui s'en va dans son sang. Et de la concentration sanguine du médicament dans le sang, il faut qu'il y en ait une concentration au site d'action qui va pouvoir faire son action en soi, ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Donc, les deux sont interreliés. Fait que si vous voulez avoir la meilleure pharmacodynamie, donc la meilleure action au site d'action du médicament, il faut qu'on ait une pharmacocinétique qui est adaptée au patient. On va souvent dire, quand vous regardez dans les références peut-être un petit peu plus poussées, là, on parle souvent de l'ADME, A-D-M-E, pour absorption, distribution, métabolisme et élimination. Il y a beaucoup de variations aux soins intensifs hein, qui va influencer chacun de ces paramètres-là. Donc, pour l'absorption, hein, ça commence par là. Pour qu'un médicament puisse être efficace, ben, il faut qu'on l'absorbe, il faut qu'on l'aille dans notre corps. L'affaire, c'est que l'absorption aux soins intensifs, elle peut varier, surtout au niveau entéral. Parce que c'est sûr que si vous administrez un médicament intraveineux, l'absorption, elle est 100%. Mais si vous le donnez au niveau entéral, on a des vidanges gastriques qui sont ralenties. On a un tube digestif hein, qui peut être moins bien perfusé parce qu'on a un patient qui est sous amine ou qui est en choc, par exemple. Donc, on va moins absorber nos médicaments. Fait que des fois, il faut en tenir compte. Il faut parfois utiliser des doses un peu plus élevées. Parfois, il faut changer de voie d'administration tout simplement. Même chose au niveau sous-cutané hein, parce que le patient qui est en choc va clamper plusieurs lits vasculaires. Donc oui, le tube digestif peut être clampé, mais le tube, le lit vasculaire sous-cutané également peut être clampé. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous donnez sous-cutané peut être moins absorbé. Je donne par exemple l'insuline. Des fois, on va la gérer avec des échelles sous-cutanées, mais là, vous voyez que les glycémies, on n'est toujours pas capable de bien les contrôler avec une échelle sous-cutanée, alors que votre patient est en choc ou c'est des bonnes doses de vasopresseurs. C'est peut-être un signe qu'il faudrait changer pour aller au niveau intraveineux. Là, vous allez me dire, moi, Matt, je prends pas de chance, j'y vais toujours intraveineux. Mais là, c'est à voir en équipe, qu'est-ce que vous faites. Il y a de la littérature, oui, qui peut supporter les deux. L'important, c'est de réévaluer son patient. C'est ça qui est important, et de tenir compte de ces changements-là. Mais il y a également la nutrition entérale. C'est super important de nourrir le patient. Je suis pas le premier à vous le dire, je serai jamais le dernier, ça c'est sûr. Mais oui, là, il faut les nourrir, les patients. Mais il y a quand même une interaction avec les médicaments. Les médicaments à la base peuvent boucher le tube. La meilleure façon, c'est de flusher le tube avec de l'eau avant de donner un médicament. Ça, c'est la première chose. Puis le flusher après. Puis après ça, on pourra repartir la nutrition entérale s'il n'y a pas d'interaction. Parce qu'il y a des médicaments qui ont des interactions. Comme par exemple la phénytoïne ou la ciprofloxacine qui vont avoir une chélation avec les nutritions entérales. Ce que ça va faire, c'est qu'on va diminuer les concentrations qu'on va absorber, fait que ça va être moins efficace. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine de changer pour la voie intraveineuse ou faut parfois arrêter la nutrition entérale 1 à 2 heures avant et après. Donc, vous voyez que pour quelque chose qu'on va donner 3 fois par jour, si on arrête 2 heures avant, 2 heures après, fois 3, ben là, on est rendu à 12 heures d'arrêt. Ça veut dire que ça a un impact qui est important sur la nutrition. Donc, il faut en tenir compte. On n'a pas le choix. Ça va influencer le plan nutritionnel du patient. Donc, une fois qu'on a absorbé le médicament, ce médicament-là va se distribuer. Donc, on va souvent parler de volume de distribution. Dans les faits, c'est un volume qui est virtuel, donc ce n'est pas un vrai volume, mais c'est pour nous permettre de mettre en relation la concentration plasmatique, mais avec la dose qu'on donne. Par exemple, un médicament hydrophile, okay? C'est que c'est souvent des médicaments qui ont peu d'affinité au niveau des protéines. Ils vont rester majoritairement dans le volume de distribution centrale, qui est souvent le volume vasculaire. On donne souvent l'exemple des bêta-lactams, hein, ces antibiotiques hydrophiles, qui sont par excellence les têtes d'affiche des médicaments hydrophiles, donc leur pharmacocinétique va varier énormément. Contrairement aux médicaments lipophiles, qui ont souvent une très grande affinité au niveau des protéines, vont avoir un volume de distribution plus en périphérie, qui sont souvent selon les graisses. Donc, plus vous avez un patient qui est obèse, plus ce volume de distribution va être augmenté. On peut penser par exemple au propofol ou au midazolam, par exemple, qui sont plus lipophiles comme médicaments. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la réanimation liquidienne, hein, qui est hydrophile, peut changer le volume de distribution de nos médicaments hydrophiles. Comme par exemple, on parlait des médicaments hydrophiles comme étant les bêta-lactams. Oui, ça a un impact qui est important. Donc, c'est votre réanimation liquidienne va avoir un impact là-dessus. Il faut ajuster nos doses en conséquence. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut parfois donner des doses de charge? Comme la vancomycine, on peut donner des doses de charge, mais est-ce qu'on devrait donner des doses de charge de tazocin ou de meropénème, par exemple, qui sont également des bêta-lactams? Ou est-ce qu'il faudrait potentialiser l'intervalle? Donc, au lieu de donner un piperacilline tazobactam 4,5 aux 6 heures, est-ce qu'on devrait donner 3,375 aux 4 heures, par exemple? Il y aurait également d'autres façons de potentialiser ça en donnant des perfusions prolongées ou des perfusions continues. Ça, je pense qu'on pourrait en parler juste dans un balado grand complet, là, tellement le sujet peut être passionnant. Bien que quand je le dis de même, ça n'a pas l'air, mais pour être franc, c'est quelque chose de super hot parce que ça peut tellement changer le cours du devenir du patient que ça, je pense que ça vaudrait la peine éventuellement d'en faire un épisode. Donc, le changement de volume de distribution, ce qui est important de retenir de ça, c'est qu'on pourrait utiliser des doses qui vont complètement différer des monographies, naturellement basées sur la littérature, hein, ça va de soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut en tenir compte. Donc, c'est super important. Il y a oui, la réanimation liquidienne qui peut faire varier le volume de distribution, mais il y a aussi la perfusion tissulaire qui peut faire ça. Alors, vous avez un patient qui est en choc, là, hein, il va avoir moins de perfusion au niveau des muscles, au niveau splanchnique. Donc, ça peut faire varier le volume de distribution d'un médicament, ce qui pourrait également même augmenter la concentration dans un tissu s'il est moins bien perfusé, parce que ce qui va être là va rester là. Donc, si jamais ça fait de la toxicité concentration dépendante, ça peut être c'est quelque chose qui pourrait se produire éventuellement. Donc, il faut, encore une fois, ajuster les doses en fonction de l'hémodynamie du patient, mais en fonction de sa perfusion également. Donc, c'est tout des petits changements pharmacocinétiques de ce volume de distribution qui peut changer. Puis, la liaison protéique également est l'autre gros changement au niveau de la distribution du médicament. On sait, hein, l'albumine, ça va baisser. Donc, tous les médicaments qui sont fortement liés à l'albumine, on va se retrouver avec une fraction libre, donc une fraction de médicaments qui est efficace, qui va faire l'effet, augmenté pour un même dosage. Donc, le meilleur exemple, c'est la phénytoïne. Hein, on sait que la phénytoïne, c'est fortement lié à l'albumine. On peut donner des doses standards chez un patient qui est hypoalbuminémique et quand on corrige son dosage, on peut se retrouver avec des dosages qui sont toxique. Donc, ce qui parfois peut, pour une dose standard, peut nous amener un patient qui va être léthargique, alors qu'il, parce qu'il est en surdose à cause que l'albumine a baissé. D'où l'importance, encore une fois, comme on avait parlé dans l'épisode 12, là, je vais mettre les liens dans la balado, dans les perles cliniques de pharmaco, quand on dose la phénytoïne, il faut doser l'albumine pour être capable de l'ajuster en conséquence. Donc, c'est super important. Ça va faire varier énormément les concentrations de médicaments qui sont fortement liées aux protéines. T'sais, on parle de la phénytoïne, par exemple. Donc, une fois que notre médicament s'est distribué, qu'il a fait son effet, il va finir par être métabolisé pour être éliminé au niveau du corps. Il y a deux types de métabolisme hépatique. Il y a la phase 1 qui est la phase oxydative. C'est notre fameuse phase des cytochromes. Le cytochrome P450, il y en a plusieurs familles. On connaît très bien le 3A4, mais il y a le 2D6 par exemple ou le 2C9. Certains vont avoir un polymorphisme génétique, donc ça veut dire que chez des patients, ils vont métaboliser différemment, donc ça peut amener un sur- ou un sous-dosage, donc il faut quand même être à l'affût de ça pour des médicaments qui passent par ces cytochromes-là, par exemple. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les cytochromes vont diminuer leur fonction avec l'âge, puis la fonction hépatique naturellement. Donc, plus on avance en âge, plus les cytochromes sont moins bons. Donc, pour une même dose, chez un patient âgé, on peut se retrouver en toxicité. Puis, comme on a de plus en plus de patients âgés aux soins intensifs, il faut tenir compte de ce changement-là. L'autre chose aussi au niveau des cytochromes qui est intéressant à savoir, c'est que la fonction rénale peut influencer la fonction des cytochromes. Pourquoi? C'est probablement par des cytokines ou de l'inflammation ou un autre mécanisme qu'on n'a pas tout à fait compris, mais on a remarqué que les patients qui sont en insuffisance rénale chronique et même en insuffisance rénale aiguë peuvent se retrouver avec une diminution de la fonction hépatique des cytochromes, bien que les bilans hépatiques restent normaux. Fait que ça veut dire que c'est des patients qui peuvent être à risque de moins métaboliser, donc à risque de se surdoser dans certains médicaments. Donc, il faut en tenir compte, surtout quand on est devant des patients qui sont en IRE. On a l'autre phase de métabolisme. On a la phase 2 qui est dans le fond de la glucuronidation, qui elle est un petit peu plus à l'abri de ces changements-là, que ce soit au niveau génétique, au niveau de l'âge aussi. Donc, on va quand même garder une fonction jusqu'à très tard dans la vie au niveau de la glucuronidation. Donc, les médicaments qui passent par cette phase-là vont avoir tendance à moins s'accumuler. On peut penser par exemple au lorazépam qui est métabolisé par la glucuronidation. Il y a également le phénomène de clairance hépatique. Ça, qu'est-ce que la clairance hépatique? C'est dans le fond un volume de sang qui est complètement clairé là, de médicaments par unité de temps. Donc la clairance hépatique, c'est le débit hépatique fois le coefficient d'extraction du médicament. Donc un médicament qui a un haut coefficient d'extraction, on peut penser par exemple au fentanyl, au propofol, au midazolam, ça veut dire que c'est des médicaments qui vont être débit-dépendants. Ça veut dire que tant que le foie reçoit du sang, le foie va être capable de métaboliser ces médicaments-là. Donc, ces médicaments-là vont être hautement influencés par les changements de sanguins hépatiques. Là, on pense au foie de choc, par exemple, au patient qui est en hypovolémie. Donc ça, c'est des patients qui sont à risque d'accumuler des médicaments à haut coefficient d'extraction. Contrairement aux médicaments à faible extraction, comme par exemple la phénytoïne, dans le fond, c'est la fraction libre du médicament fois la clairance intrinsèque, donc la fonction hépatique du patient qui va faire que le médicament va être clair ou pas. Fait que ça veut dire que si vous avez un patient qui est en choc, qui est en foie de choc ou qui est en hypovolémie, tant qu'il y a du sang qui se rend, même s'il y en a moins, ils vont quand même avoir une élimination de ces médicaments-là. Donc, de ce point de vue-là, ils sont moins à risque d'accumuler ces médicaments-là. Dans le fond, on avait parlé des cytochromes là, et l'insuffisance rénale aiguë, mais il y a d'autres choses aussi où ce que nos cytochromes vont moins bien fonctionner. On peut penser à la cirrhose, par exemple. Dans le fond, on a moins de cytochromes fonctionnels ou la cholestase également. L'autre chose qui est importante à se rappeler, c'est l'hypothermie thérapeutique. Ça diminue le métabolisme, ça diminue l'activité enzymatique des cytochromes. Donc, en hypothermie, nos patients sont à risque d'accumulation de médicaments. Donc, c'est super important d'utiliser des médicaments à des doses plus faibles qu'habituellement, surtout lorsqu'ils sont métabolisés au niveau hépatique. C'est sûr qu'il y a plusieurs interactions médicamenteuses qui peuvent se produire également lors de du métabolisme. On pense à l'inhibition de nos cytochromes, hein, les fameuses interactions avec le cytochrome 3 à 4 qu'on parle. On sait que certains ISRS, comme la fluvoxamine ou l'amiodarone, qui sont des très forts inhibiteurs, donc ils vont causer beaucoup d'interactions. On a également des inducteurs enzymatiques comme la phénytoïne ou le phénobarbital. Ça prend un petit peu plus de temps à se produire. Habituellement, ça se produit dans les 7 à 14 jours qui suivent, parce que dans le fond, on augmente la production d'enzymes, donc ça prend un certain temps. Fait que dans les faits, c'est comme ça qu'il peut se produire plusieurs interactions. Il y a plusieurs outils disponibles pour voir quelles interactions peuvent être significatives ou pas. Ça, on a quand même l'habitude de gérer ça. C'est sûr que je vous réfère à votre pharmacien sur votre unité. C'est une des personnes ressources là, pour vous aider. Et finalement, une fois qu'on a tout métabolisé ça, il nous reste à éliminer le médicament. Donc, l'élimination, hein, il y a trois voies majeures pour éliminer un médicament. Celle qu'on connaît beaucoup, hein, qui est la voie rénale, qui va être dans le fond soit par filtration, sécrétion ou réabsorption un petit peu. On a la voie également biliaire, où ce qu'on va avoir beaucoup de recyclage entérohépatique. On peut penser à l'acide valproïque, par exemple, qui subit beaucoup de recirculation entérohépatique. Donc, c'est à garder en tête quand on utilise l'acide valproïque, là, surtout en status épileptique, ça peut varier ça là, quand on l'utilise entéral. Mais il y a également au niveau pulmonaire qu'on peut excréter des médicaments. Ça va être surtout des gaz anesthésiens et l'éthanol. Bon, je sais que l'éthanol, on s'en sert plus vraiment comme médicament aux soins intensifs, là. Sachez que les poumons peuvent également être ça, bien que majoritairement, ça va être excrété au niveau rénal, que ce soit les médicaments en soi, les métabolites des médicaments, parce que dans le fond, le but du métabolisme hépatique, c'est de rendre plus hydrophiles les médicaments pour être plus facilement excrétables. Donc, on connaît bien l'insuffisance rénale aiguë, hein. On sait que c'est quand même assez prévalent aux soins intensifs. On a plusieurs définitions qu'on connaît, qui est surtout la KIT-GO qu'on connaît le plus, là, avec le débit de volume urinaire, là, surtout en bas de 0,5 ml par kilo-heure pour au moins 6 heures. On a également le staging rifle, le staging Akin. Je mettrai des calculateurs là, dans les notes là, pour vous le rappeler, qui vont nous permettre d'avoir l'atteinte au niveau de l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë va avoir un impact important sur les médicaments. Ça, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, hein. Il va falloir ajuster les médicaments parfois à la baisse, parfois à la hausse également, parce qu'on va avoir d'autres paramètres pharmacocinétiques qui vont varier. Donc, c'est vraiment une fine balance qu'il faut trouver. Comme par exemple, on a un médicament éliminé rénal, on est en insuffisance rénale aiguë, mais on a un volume de distribution de ce médicament hydrophile qui est augmenté. Comme par exemple, la piperacilline tazobactam, ben, ça se peut que pour les premiers 24 heures d'une insuffisance rénale aiguë, on utilise des doses très élevées parce qu'on a un volume de distribution qui va en augmentant. Mais il va falloir le réévaluer à tous les jours. Donc, il ne faut pas juste voir un seul paramètre, il faut prendre l'entièreté du paramètre. Fait que, tout ça pour dire que l'insuffisance rénale aiguë, on s'en sert pour éliminer les médicaments, donc il faut ajuster en conséquence. On se rappelle que l'insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, peut avoir un impact sur le métabolisme des cytochromes, donc ça peut également avoir un impact à ce niveau-là également. Si jamais on utilise une thérapie de remplacement rénal, que ce soit de la CVVH, de la CVVHDF, de la dialyse intermittente ou de la SLED, tout ça va avoir également un impact sur l'élimination rénale. Fait qu'il va falloir prévoir des doses peut-être pré, peut-être post, des doses supplémentaires, une façon d'administration qui sera différente. Donc, c'est super important d'ajuster nos médicaments quand on tombe en thérapie de remplacement rénale. Mais il y a également un phénomène rénal qu'on entend peut-être moins parler, mais qui est excessivement important de mentionner, qui est la fonction rénale augmentée. Ça arrive chez nos patients en trauma, chez nos patients qui sont jeunes, dans la littérature, c'est défini en bas de 50 ans. Je le sais que 55 ans, c'est très jeune encore, là. Mais bon, c'est la littérature, c'est pas moi qui l'écris. Nos patients qui ont un SOFA en bas de 4, il existe également en trauma le ARTIC score qui nous permet de voir si notre patient est à risque de fonction rénale augmentée. Ça, qu'est-ce que ça a comme impact, une fonction rénale augmentée? Ça veut dire que pour une même dose, vous allez sous-doser votre patient. Généralement, les bêta-lactames vont être très sensibles à ça. Je prends le cas typique, là, le jeune patient là, dans la quarantaine qui a une pneumonie, qui n'a pas d'atteinte au niveau rénal. Vous avez une créate qui est bas, un DFGA qui est plus que 150 ml par minute par 1,73 mètres carrés chez les femmes ou 160 ml minute chez les hommes. Typiquement, ces patients-là sont en hyperdynamisme rénal, donc pour une dose standard, ils vont être sous-dosés. Donc, ces gens-là, c'est très important de les pister pour être capable de bien ajuster à la hausse certains médicaments, surtout les antibiotiques, par exemple. Une des façons de faire pourrait être également de faire un dosage rénal, donc faire une analyse d'urine là, sur 6 à 12 heures. Il y a de la littérature derrière ça qui nous permet d'essayer de voir si on ne peut pas identifier ces patients-là. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qu'on veut faire, ben, ça serait peut-être bien de le faire, mais de soir, là, comme ça, on arrive le matin puis on a ces données-là. Ça dure généralement 4 à 5 jours, là, ça peut aller jusqu'à 7 jours selon les patients. Donc, c'est super important de les pister parce que c'est des patients qui sont à haut risque d'échec au traitement. Et une fois qu'on a éliminé notre médicament, bon, ben, et voilà, il est parti. Il est parti, il n'y a plus d'effet dans le corps du patient. Donc, tous ces changements de paramètres pharmacocinétiques-là peuvent varier indépendamment un de l'autre selon la condition du patient. C'est super important d'en tenir compte quand on va ajuster les médicaments. Ça peut faire qu'on va utiliser des doses qui ne sont pas du tout dans les monographies, mais qui sont quand même basées sur la littérature. Donc, c'est très important de surveiller ça puis d'adapter selon le patient que vous avez. Et souvent, c'est au jour le jour qu'il faut le faire. Je répète encore, si j'ai un biais là, mais votre pharmacien, c'est votre meilleur ami pour vous aider là, à ajuster puis à adapter les doses de pharmacothérapie pour votre patient selon ses paramètres qui lui sont propres. Ça fait pas mal le tour des grandes lignes de la pharmacocinétique. C'est sûr qu'on pourrait se lancer là-dedans, là, ça pourrait durer des heures également, là, ça en est des cours d'ailleurs. Le but est vraiment de démystifier les changements qui peuvent se produire pour que vous soyez à l'affût des recommandations qui peuvent être différentes pour un patient, pour un médicament donné. J'espère que ça va vous aider à être à l'affût des changements possibles de pharmacocinétique chez un même patient. Donc, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Naturellement, comme d'habitude, tous nos épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.